Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'économie présentée par moi-même, Adrien Fabre, le microéconomique. Cette émission a pour but de familiariser l'auditoire à l'économie et au métier d'économiste. Et à cette fin, nous allons recevoir un économiste ou une économiste durant chaque épisode. Et l'émission se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous poserons un questionnaire toujours le même à l'économiste, pour comprendre sa réflexion politique et économique et mieux appréhender la deuxième partie où nous le ferons parler de son domaine de spécialité. Alors notre première invitée est Françoise Benamou, spécialiste de l'économie, de la culture et des médias, professeure à l'Université Paris 13, membre de l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Communications et des Postes, mais également membre du Cercle des Économistes, membre du Conseil d'Administration du Musée du Louvre, et j'en passe. Alors, forcément, comme c'est la première émission, il y a eu un petit ratage. J'ai pas réussi à enregistrer, enfin j'ai fait n'importe quoi avec les micros, et donc il manque la première partie de l'émission. Donc j'ai quand même demandé à Madame Benamou, quand je m'en suis rendu compte, de répéter ce qu'elle avait dit sur une ou deux questions, mais il manque toutes les autres. Je vous prie de m'en excuser, et ça sera plus réussi la prochaine fois. Sans plus attendre, la première question. Alors, l'enseignement de l'économie dans le cycle universitaire est très critiqué par bon nombre d'étudiants. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revoir l'enseignement de l'économie ?
Il y a une évidente frustration des étudiants quant à ce qu'est l'enseignement d'économie. Et peut-être parce que nous avons gardé et nous avons conservé largement une entrée dans l'économie qui commence par la micro, la macro, avec des modélisations, même simples au départ et plus complexes ensuite. Et peut-être faudrait-il inverser les choses, c'est-à-dire commencer par raconter l'économie, montrer en quoi elle est une science sociale et une science humaine explicative du monde, pour ensuite montrer comment la modélisation peut aider à comprendre les questions qu'on a posées en premier lieu, et ou en tous les cas marier mieux les deux, de telle manière que les étudiants n'aient pas l'impression d'entrer dans quelque chose qui n'est pas du tout la matière à laquelle ils s'étaient inscrits. Il y a sans doute un questionnement à avoir, qui est un questionnement aussi qui rebondit aussi sur la recherche, le poids des mathématiques, le poids de la modélisation au détriment parfois de l'explicitation d'hypothèses et de leur adéquation aux questions qu'on se pose sur le monde.
Quelles mesures politiques et économiques est-ce que vous estimez les plus importantes à l'heure actuelle ?
Il y a, je crois, plusieurs mesures dans l'ordre du politique et dans l'ordre de l'économie qui s'imposent. Du côté de l'économie, bien entendu, il faut à la fois lutter contre la crise et accompagner, en quelque sorte, la crise au sens où il faut accompagner les victimes de la crise pour qu'elles le soient moins. Alors, lutter contre la crise et faire cela, c'est d'abord pour moi ma première préoccupation, elle est celle de la lutte contre le chômage. Et en particulier la lutte contre le chômage des jeunes. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par plusieurs catégories de mesures, au-delà de tous les débats qu'on peut avoir sur le contrat de travail, etc. Ça pose la question d'abord du financement des PME, notamment, qui sont très créatrices d'emplois, et qui ont de plus en plus de mal à trouver des financements. Ça peut être aussi la question des start-up qui se pose, hein, et qui se pose en particulier par rapport aux jeunes. Donc voilà, un premier type de mesure. Deuxième type de mesure que je trouve très important, c'est la formation, de revoir les questions de formation, de faire en sorte que l'on ait à la fois des formations initiales et tout au long de la vie qui permettent d'accompagner le retour à l'emploi. Et je trouve que par rapport à cela, on peut quand même avancer un peu sur cette question de l'emploi qui est une préoccupation pour moi majeure.
D'accord. Pour le financement des PME, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer ? Parce qu'à l'heure actuelle, les taux bancaires n'ont jamais été aussi bas. Alors il faut sûrement jouer sur...
Les taux sont bas, mais il faut dégager aussi la volonté des banques d'accompagner ces entreprises. C'est-à-dire que les banques, dans ce contexte de crise, sont très averses au risque. Et donc, il faut essayer de trouver des incitations qui permettent de faire en sorte que l'effort soit réellement entrepris. Alors on a aussi des outils comme la BPI, la Banque publique d'investissement et d'autres, mais je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir. Et je crois, pour ajouter un point auquel je suis sensible de par le métier que j'exerce aujourd'hui, je crois par exemple qu'il faut cesser de penser le numérique comme un secteur d'activité, mais il faut penser le numérique comme irriguant l'ensemble de l'économie. Et donc à la fois accompagner les entreprises dites du numérique, mais aussi savoir accompagner les entreprises non rattachées au secteur dit du numérique, si tant est qu'il existe, pour qu'elles entrent dans l'ère numérique. Par exemple, tout le secteur des services, tout le secteur du commerce en ligne, etc. Enfin, je pourrais faire une liste infinie.
D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revoir les institutions? Et si oui, comment?
Revoir les institutions, oui. Il faut, je pense, les revoir parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements, je dirais, de la machine étatique et administrative. Revoir la Constitution peut-être, c'est-à-dire revoir l'articulation entre la présidence de la République et le gouvernement, la manière dont on travaille, qui fait quoi et comment la cascade des conseillers travaille avec les conseillers qui, eux, sont avec les cabinets des ministres. Je crois qu'il y a vraiment toute une réflexion aussi sur les processus électoraux. Je crois que tout ça est très important quant à l'administration elle-même, qui s'est beaucoup réformée, contrairement à ce qu'on peut dire. Qui a vu ses effectifs réduire. Si on doit réduire encore les effectifs, il faut vraiment penser aussi les missions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réflexion qui soit simplement celle de la réduction de la dépense publique. Il faut l'articuler avec une réflexion sur que fait l'État, que font les collectivités, comment, qui fait quoi, éliminer les doublons, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser.
D'accord. Alors merci pour ces questions préliminaires. Maintenant, je vais passer à votre domaine de spécialité, donc la culture, l'économie de la culture. Donc vous vous êtes posé la question de la pertinence de subventionner la culture. Vous avez écrit un livre explicatif sur les droits d'auteur et le copyright. Je vais vous poser des questions là-dessus avant peut-être de parler de votre dernier livre, donc le livre à l'heure du numérique. Alors, sur la question des copyrights, que penserez-vous d'un financement collectif des œuvres culturelles, scientifiques et logicielles, corrélativement à la suppression des droits d'auteur et des copyrights?
C'est une hypothèse qui est parmi les multiples hypothèses, hein, vous savez, concernant le financement de la création et le financement de la culture, enfin, dans son aspect surtout création, hein, c'est-à-dire dans son aspect amont. C'est une hypothèse que certains ont avancée, hein, en disant, mais dans le fond, on ne peut pas complètement lutter contre le piratage, donc avec des solutions diverses qui pourraient être apportées, par exemple un paiement en amont, et puis ensuite on peut télécharger tout ce qu'on veut comme œuvre, et ça permettrait à ce moment-là de se dire, oui, mais alors il faut quand même financer les artistes, les auteurs, éventuellement tout l'appareil productif culturel. Et comment le faire? Eh bien, cet argent qu'on aurait récupéré, on pourrait le redistribuer. C'est ça votre idée. Alors, je suis très perplexe là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je pense qu'il ne faut jamais, jamais mettre entre les mains de l'État toute la question du financement de la création. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on est dans des États démocratiques, mais d'abord, ça peut changer. Et ensuite, il est bon que toutes les formes de financement puissent coexister. Alors, pour vous prendre un exemple tout à fait concret qui se pose aujourd'hui et qui est particulièrement intéressant, c'est celui du monde académique qui publie souvent des articles académiques à partir de financements publics. Des laboratoires de recherche. Et on s'est dit, mais dans le fond, ensuite, ces articles sont publiés par des revues qui, quelquefois, sont des revues privées. Et la Commission européenne s'est
Et
penchée,
payante,
et oui,
et
et
même très
quelquefois très
cher.
chère, qui, quelquefois, ruine les bibliothèques universitaires. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment sortir de cela. Et la Commission européenne a sorti une directive qui dit, eh bien, au fond, ces articles devraient être en accès libre et gratuit. 6 mois après leur parution dans une revue, quand ce sont des articles scientifiques du côté des sciences dures, et un petit peu plus, 2 ans, quelque chose comme ça, pour les revues de sciences humaines, ou 1 an même, voilà.
Je ne savais pas qu'il y avait une directive de
Voilà, et sa
bilan carbone sur ce
directive
sujet.
devra être appliquée. Quand c'est une directive, ça veut dire que chaque pays choisit ensuite les modalités de l'application de cette directive. Il doit l'appliquer, mais aussi en prenant en compte les situations nationales. Et c'est un sujet extrêmement important, parce que d'un côté, on se dit, bah, c'est évident. Puis d'ailleurs, pourquoi 6 mois? Pourquoi pas tout de suite, à la limite? Et en même temps, ça pose des questions, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas souhaitable, prenons le domaine des sciences humaines par exemple, qu'il existe encore des revues éventuellement privées, qui peuvent être des revues associatives, des revues de fondation, ou même des revues qui gagnent un peu d'argent, en général, elles en gagnent très peu avec ça. Je ne parle pas des grandes revues américaines, qui sont la propriété des grands éditeurs type Elsevier, Wiley, Springer, etc. Et ces petites revues. Cette diversité de revues, je pense qu'il faut qu'elles continuent d'exister et qu'elle est un modèle économique. Car je pense que, il est bon que l'on garde des possibilités, des logiques éditoriales qui ne soient pas uniquement des logiques publiques.
Mais est-ce que vous croyez que les revues sont incompatibles avec l'accès libre? Parce que...
Non, 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 il y a des accès libres possibles, mais il faut en même temps qu'elles définissent des modèles économiques. Alors, soit vous avez. Il n'y a pas de miracle, hein, il faut que quelqu'un paye. Alors, soit vous avez un accès libre à coup de subvention, mais on retombe dans une logique publique exclusivement. Soit vous avez un accès libre avec de la pub, pourquoi pas. Soit vous avez un accès libre avec des services annexes. Hein. Soit vous avez un accès libre au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, ou je ne sais trop quoi. Mais il n'y a pas de miracle.
Parce qu'il y a des études qui montrent que les revues en accès libre sont tout aussi en bonne santé financière que les revues payantes.
Si elles ont un modèle économique.
Elles trouvent des modèles
Il
économiques.
faut
Par
un
exemple, elles
modèle.
vendent des éditions papier.
Voilà.
Ou,
Mais faut-il qu'il y ait une demande pour ces éditions papier? Donc il faut regarder ensuite de très près, parce que ce qui est frappant avec le numérique, on y viendra peut-être, c'est la variété des modèles. Si vous n'avez pas un modèle univoque, unique, vous avez une variété de modèles économiques. Donc, par exemple, vous pouvez avoir de la gratuité subventionnée par quelque chose d'autre, ou vous pouvez avoir des modèles payants.
Alors pour revenir à la gratuité de la culture numérique, enfin de la culture sur support numérique, vous dites que enfin, vous avez peur que ce soit contrôlé par l'État, mais on pourrait imaginer d'autres formes de redistribution qui ne passeraient pas par l'État, qui passeraient par des panels de consommateurs, peut-être des sites privés ou...
Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai dans mon livre sur le livre numérique, j'ai beaucoup regardé à la fois l'auto-édition, les sites de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif, etc. Donc ça, bien sûr, ce sont des modèles. Je crois qu'il faut, je le répète, mais je pense que c'est très important, il faut qu'il y ait une variété de modèles. Je vous donne un exemple. Financement participatif. Kafka, il a publié à 300 exemplaires au départ. Est-ce qu'il aurait trouvé, grâce aux réseaux sociaux, son financement participatif? Peut-être pas. C'est-à-dire que je crois qu'il est bon qu'existe, à côté de ces modèles tout à fait nouveaux et essentiels, qui sont souvent des modèles qui sont portés par de nouveaux entrants, à côté des géants de l'Internet, qui mangent toute une partie des marchés et derrière lesquels souvent vous avez de fausses gratuités. Il est bon qu'existe aussi éventuellement des modèles, par exemple, éditoriaux, qui seront peut-être pas les mêmes éditeurs que ceux d'aujourd'hui, mais des modèles éditoriaux au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire un éditeur qui va porter en fait un projet éditorial, un projet de publication de quelqu'un qui est peut-être pas doué non plus pour aller sur des sites d'auto-édition et pousser un auteur de talent. Il y a aussi cette possibilité-là, donc je crois qu'il faut rien exclure.
D'accord. Mais enfin, encore une fois, on pourrait imaginer des systèmes éditoriaux qui perdurent malgré la gratuité.
Exactement. Oui, à côté de la gratuité.
Côté, enfin,
Mais si vous voulez, les modèles.
ou même dans la gratuité, c'est-à-dire que ils récolteraient une partie des financements, pas des subventions, mais des financements, et les redistribueraient comme ils veulent
Mais à ce moment-là,
à
il
leur
faut
propre.
inventer un système qui permette qu'ils les
Tout à fait.
récoltent, ces financements. Et ça n'est pas évident, hein, parce que vous savez, le monde de l'Internet n'est pas un monde angélique. Il y a. C'est un monde qui doit se battre aussi pour exister. Et c'est un monde complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que grâce à Internet, tout est possible pour tout le monde.
Vous pensez pas qu'on peut mesurer l'audience des livres et de la musique et des films sur Internet de façon
Si,
relativement précise?
bien sûr. pour faire remonter ensuite les financements éventuellement sur les auteurs. Mais tout ça est très compliqué. Vous avez aujourd'hui des géants de l'Internet qui ont un pouvoir considérable. Et c'est un point qu'il faut surtout pas négliger quand on essaye de comprendre ce monde-là. Par exemple, quand vous prenez le monde du livre, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a des batailles homériques qui se jouent, alors qui se jouent certes entre les éditeurs qu'on pourrait qualifier de traditionnels et Amazon, par exemple, mais prenez le cas Amazon. Amazon aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 30% à peu près de part de marché sur le livre papier, c'est plus de 60% de part de marché sur le livre numérique, c'est-à-dire c'est une position dominante. Alors on pourrait se dire une position dominante ne signifie pas nécessairement des abus de position dominante, mais aujourd'hui, ce sera aux autorités de la concurrence d'en juger. Mais on n'est pas loin. Regardez ce qui se passe aux États-Unis où Amazon a décidé de renégocier les remises, enfin les distributeurs pour les grands éditeurs, et notamment Hachette, qui est un éditeur américain et pas seulement français. Et Amazon, ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait de la renégociation, ça c'est normal, ça fait partie de la vie économique. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que pour faire pression sur Hachette, que fait Amazon? Amazon envoie des messages aux gens qui veulent acheter des livres Hachette en disant: oh, vous voulez acheter ce livre, mais moi je vais vous proposer un livre assez équivalent et qui n'est pas publié par Hachette. Donc vous voyez, le pouvoir de marché, c'est un sujet extrêmement important dans le monde de l'Internet. Et je crois qu'il ne faut pas avoir la vision simplement un peu libertaire en quelque sorte. Il y a aussi des vraies batailles économiques.
Alors, est-ce que la proportion du prix d'un livre qui revient à l'auteur a augmenté dans le livre numérique? Elle est de quel ordre de grandeur?
C'est une vraie bataille et une bataille importante. Quand le livre numérique est apparu, les éditeurs étaient sur la position, ben voilà, les droits d'auteur en gros c'est 10%, bon, on va laisser 10%, on change de monde, d'accord. Et puis les auteurs se sont un peu rebellés en disant, mais non, il y a quand même des coûts qui disparaissent de l'ordre de 30%, on veut notre part. Et les négociations sont là et elles sont difficiles. Elles sont très difficiles. Pourquoi? Parce que les éditeurs sont tout à fait conscients du fait que le numérique peut leur ouvrir de nouveaux marchés, mais qu'en même temps, il est destructeur de valeur, pour partie. C'est-à-dire un livre que vous vendez à un certain prix, vous allez le vendre aujourd'hui à 30% moins cher sous format numérique. Là, dans le fond, pas de problème, parce que les 30%, c'était les coûts de distribution. Sauf qu'il faut voir que les éditeurs récupéraient une part des coûts de distribution. Puisque, en tout cas en France, ils sont aussi distributeurs, donc ils perdent un petit peu d'argent, ils perdent un peu de valeur. Et puis on sent bien que peut-être le livre numérique verra son prix, son décrochage entre le livre papier et le prix du livre papier, diminuer encore. Donc il y a cette inquiétude, bien entendu, plus l'inquiétude du piratage, etc. Donc les éditeurs sont très attentifs à ne pas trop partager. Et dans le fond, les auteurs se disent, mais moi, j'en veux plus. Et on voit du coup se développer des sites qui vont proposer d'autres formules, soit des nouveaux entrants. Alors il y en avait un qui était, il y en a d'autres, hein. Il y a Publi.net et il y en a beaucoup d'autres qui vont proposer d'autres contrats d'auteur, qui pour l'instant n'ont pas la surface des éditeurs traditionnels, mais qui proposent des contrats d'auteur qui sont beaucoup plus avantageux pour les auteurs. Donc on peut avoir progressivement un glissement. Et puis vous avez aussi quelque chose qui se développe, sur lequel les éditeurs pour l'instant restent très circonspects. Ils n'ont pas tort, mais ils ont aussi un petit peu tort, c'est toute l'auto-édition, qui est un phénomène massif, qui me semble être un phénomène intéressant, dans lequel vous allez avoir la pensée, hein, universelle du numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui veut raconter l'histoire de sa famille et avoir 30 exemplaires à distribuer à sa famille. Ça, c'est l'auto-édition qui n'a pas grand intérêt. Mais vous avez aussi des sites d'auto-édition où d'ailleurs les éditeurs seront amenés à aller chercher des auteurs. Ce sera aussi une autre manière de chercher de nouveaux auteurs. Mais au-delà de ça, vous avez des sites d'auto-édition dans lesquels les auteurs vont récupérer là une part très significative des droits. Alors même si c'est sur des tout petits prix, quand vous avez 70% de 10 euros là où vous aviez 10% de 50 euros, ben voilà, vous faites le calcul et ça peut devenir intéressant. Alors Se posera alors le problème de l'auteur d'exister sur ces sites, parce que c'est bien joli de mettre ses œuvres complètes sur un site d'auto-édition, mais même aujourd'hui, quand on publie chez un éditeur qui est une grande marque déjà, on a du mal à exister sur ces sites, le problème va se poser. Mais je pense que va se créer une industrie de l'intermédiation, une industrie de la recommandation, comme elle existe déjà, il y a déjà beaucoup de choses, va se créer quelque chose. Et donc, on peut arriver à un nouveau monde qu'on n'avait pas du tout vu venir.
D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire tout seul ? Est-ce que les auteurs ou les artistes peuvent s'auto-organiser de façon suffisamment puissante pour contrer les géants du secteur comme Amazon ou l'Apple Store ? Ou est-ce qu'il faudrait des mesures de régulation législative pour
Alors,
les aider ?
je ne crois pas que ce soit nécessairement les auteurs, ça peut être les distributeurs, ça peut être les producteurs aussi. Hein. Ensuite, la politique publique, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'elle est assez impuissante face au monde de l'Internet. Le monde de l'Internet est un monde fluide. Hein. C'est Zygmunt Bauman qui utilise la métaphore de la société liquide, que je trouve très, très parlante. Hein. Donc on peut imaginer des mesures, mais ensuite il faut que ces mesures soient appliquées et applicables. On le rencontre avec les problèmes de fiscalité numérique, on le rencontre avec les problèmes de localisation pour la TVA, des grandes entreprises du commerce électronique qui vont aller s'installer là où c'est le plus avantageux. Vous le rencontrez aussi, ce problème-là, par exemple, regardez tous les débats qu'on a en France sur l'audiovisuel. On avait jusqu'ici un système, on l'a encore d'ailleurs, qui permettait de financer la production audiovisuelle et cinématographique à travers l'effort qui est obligatoire pour les chaînes d'investissement dans des œuvres, pour les chaînes de télévision, pour aussi les services de vidéo à la demande. Bien joli, mais quand on dit à Netflix, faites ça, qu'est-ce que répond Netflix ? Bah tiens, je vais aller m'installer aux Pays-Bas. Et donc, on a beaucoup de difficultés à inventer de nouveaux outils publics qui soient adaptés au monde du numérique. Et sans doute va-t-il falloir qu'on se dise, c'est une hypothèse en tout cas, que notre système de financement de la création audiovisuelle, par exemple, ne fonctionne plus. Et donc, peut-être, là, je vous rejoins sur votre question initiale, peut-être faudra-t-il revenir à des financements publics plus importants.
D'accord.
À côté de financements privés, parce que Netflix investit dans une série. Bon, ouais. On verra ensuite ce qu'ils feront réellement.
Est-ce que l'avenir, ce ne serait pas ni les financements publics, ni les financements privés, mais le financement par les pairs, une logique de réseau plutôt qu'une logique top-down
Le financement par les pairs, vous savez, il existe déjà d'une certaine manière. Par exemple, quand vous prenez le cinéma français, vous avez une taxe. Cette taxe est prélevée sur les billets d'entrée dans les cinémas. Ça abonde le Centre national de la cinématographie. Et ensuite, ça va dans des films. Donc, dans le fond, vous avez déjà des choses de ce type qui existent. C'est assez frappant d'ailleurs de voir souvent avec le monde de l'Internet, beaucoup de choses existaient déjà, simplement elles prennent la dimension nouvelle, fait qu'elles changent de nature. Mais regardez par exemple, quand on parle de financement participatif, en Angleterre, le British Museum, si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, est gratuit. Vous avez une urne transparente dans l'entrée et les gens mettent de l'argent. C'est une sorte de financement participatif avant l'heure. Et puisque Jean Tirole vient d'avoir le prix Nobel, quand Jean Tirole théorise les marchés à double face, il le fait notamment pour la télévision, en disant, ben voilà, le marché de la télévision privée payante, c'est un marché dans lequel on vend d'un côté des programmes, enfin on offre des programmes aux téléspectateurs, ça c'est la première phase du marché, et pour financer cette première phase, on vend de l'espace publicitaire à des annonceurs, et il y a une corrélation entre les deux, puisque plus il y a de téléspectateurs, et plus l'espace publicitaire est cher. C'est un marché biface. C'est quoi Internet ? Un marché biface. Donc vous voyez, tout cela, toute cette économie, en quelque sorte, on la voyait déjà, simplement sa dimension est nouvelle. Alors les financements, bien sûr, les financements vont changer, complètement. Mais le financement par les pairs, ce sera une solution pour certains types de biens culturels, certains types d'œuvres, certains types de biens, peut-être d'œuvres scientifiques, mais à côté d'autres modes de financement.
D'accord. Donc, parce que quand vous disiez que l'État était souvent impuissant, en tout cas il n'avait pas trouvé les bons outils pour réguler, on peut penser que l'État aurait des moyens puissants de changer, de bousculer le secteur. Par exemple, la proposition du Parti Pirate qui dit on devrait autoriser les gens à pirater et puis à s'échanger les biens culturels, les logiciels qu'ils ont achetés. Est-ce que vous pensez que ce serait trop dangereux de faire ça?
Sur l'économie des jeux logiciels, on est dans une économie spécifique. L'idée de logiciels gratuits, que les gens améliorent en plus, donc avec open source, mais c'est une économie. C'est une économie qui a trouvé son modèle, c'est-à-dire que ce que l'on va vendre, c'est des services afférents. Donc, il y a des possibilités. Dans le monde de la culture, vous êtes dans un monde différent. Donc, vous pouvez avoir des modes de financement participatif, vous pouvez avoir différents modèles, mais je ne crois pas qu'on puisse transposer simplement ce monde du logiciel au monde de la culture. On va avoir des modèles différents. Si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un auteur comme moi, c'est-à-dire les auteurs qui ne vivent pas de leurs œuvres. Là, je viens de publier un livre, sur le livre numérique. Il existe en version papier, il existe en version numérique, évidemment. Et j'aurais pu faire d'autres choix. J'aurais pu me dire, ben voilà, je vais mettre mon livre en format gratuit et peut-être avec la possibilité de l'améliorer un peu dans les logiques des wikis. Pourquoi pas? Mais c'est une... On est alors dans une économie de l'expérimentation et dans une économie, pour l'instant, et dans une économie non-profit. À ce moment-là, je ne vais pas voir un éditeur parce que lui, il a un modèle économique.
Dans ce cas-là, pourquoi avez-vous fait le choix de livre payant?
Parce que j'avais envie de m'adresser à un grand public dont je ne pense pas qu'il soit encore nécessairement là. Mais ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire que peut-être que mon prochain livre... sera sous cette forme-là. Et puis par ailleurs, j'écris beaucoup d'articles qui, eux, sont complètement
en libre accès. Vous ne pensez pas que vos livres auraient été plus lus s'ils avaient été gratuits?
C'est à prouver. Pourquoi pas? Moi, si vous voulez, ce que je pense, par exemple, j'ai écrit il y a longtemps un livre sur le Star System chez Odile Jacob, qui de fait n'est plus commercialisé. Et dans lequel je pense qu'il y a certains... Bon, il y a des choses évidemment qui deviennent obsolètes, mais il y a des choses qui restent tout à fait d'actualité, justement, sur l'appareil industriel lié au Star System, sur la manière dont le Star System s'est construit, etc., sur ses origines, qu'on peut remonter très très loin, et sur ses évolutions. Je pense que c'est un livre qui gagnerait... soit être réédité, soit être tout simplement gratuit sur Internet, ça ne me pose aucun problème.
Alors, vous avez les moyens juridiques de le rendre en accès libre ou vous avez donné vos droits d'auteur? Enfin,
j'ai signé un contrat d'auteur.
D'accord.
Mais ça, c'est une réflexion, je le dis d'ailleurs dans mon livre, là, le dernier, que je trouve importante. Et, les éditeurs, évidemment, ne sont pas heureux quand on dit ça. Et je les comprends parce que leur modèle économique est basé là-dessus. Mais nous avons aujourd'hui un droit d'auteur... et en général, vous savez que sans doute que le droit d'auteur, c'est 70 années après la mort de l'auteur, il court jusque-là. Et le contrat d'auteur, en général, est assis sur la même durée. Et moi, je pense que peut-être un premier pas vers une réflexion là-dessus, c'est de peut-être disjoindre les deux durées. Parce que 70 ans après la mort de l'auteur... Voilà, j'écris un livre à 50 ans, je vis aller jusqu'à 90 ans, on va dire, ce qui sera fréquent dans ma génération et plus encore dans les générations à venir. Ça veut dire 40 plus 70 ans, ça veut dire 110 années de droit d'auteur. C'est l'éternité à l'heure d'Internet. Voilà, et puis, bon, évidemment, il y a des livres qui vivent longtemps, etc., mais ont-ils besoin pour autant d'être dans un cadre comme ça, où la cession des droits continue d'exister, moi, j'y suis pas favorable.
D'autant plus que d'ici là, il sera disponible évidemment
voilà,
sur Internet.
Évidemment. Mais mon message, si j'avais un message à donner là-dessus, ce serait de dire, vous voulez renforcer le droit d'auteur sur ce qui est encore sous droit. Et c'est votre plein droit. Vous êtes dans le cadre d'une économie qui est vraiment assise là-dessus. On peut inventer d'autres économies en parallèle, mais si cette économie-là, elle existe encore. Mais à ce moment-là, on ne peut pas, je crois, se crisper à la fois sur le renforcement de l'application du droit et sur la durée. Je pense que dans ces deux dimensions, il y a peut-être une réflexion à mener.
Et est-ce que vous trouvez ça légitime que les droits d'auteur soient linéaires en fonction de la popularité de l'œuvre? C'est-à-dire que l'auteur va toucher 10% des ventes du livre, qu'il ait vendu 1000 livres ou 10 millions, ce qui va produire...
Ça dépend des contrats d'auteur, hein.
D'accord.
Vous pouvez avoir des contrats
qui vont
assurer une rémunération différente, etc. Le revenu minimum dans le droit d'auteur n'existe pas.
Oui.
C'est une réflexion qu'on pourrait ouvrir. Hein. Certains éditeurs, tous, ne le font pas, donnent des avances qui peuvent être importantes quand l'auteur est à succès, moins importantes. Vous avez là aussi, et en économie, on théorise très bien cela, un trade-off, enfin un échange,
un arbitrage,
je ne trouvais pas le mot, entre l'avance et le taux.
D'accord. J'essaie de feuilleter un peu votre livre, livre à l'heure du numérique. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ?
C'est un livre que j'ai écrit tout à fait récemment, à partir tout d'abord d'une réflexion qui m'était venue, qui est un peu un paradoxe français, c'est-à-dire le livre numérique s'est peu développé en France, il représente encore moins de 5% du marché du livre. En revanche, la préoccupation est partout. Elle est extrêmement présente, notamment chez les éditeurs, et j'ai été invitée à des dizaines de colloques là-dessus, et je me suis dit, mais pourquoi ? Et une des réponses, au-delà du fait que c'est vrai que ça a largement décollé aux États-Unis, où pour certains éditeurs, ça peut représenter 30% de part de marché, donc quelque chose de très significatif, c'est vrai que ce qui s'est passé du côté de la musique, moins de la presse, qui semblait préoccuper moins, et à mon avis, ils ont tort, montre que quand même, le numérique, c'est un tsunami pour l'économie d'un secteur. C'est-à-dire que ça met tout en cause, ça met en cause toute la chaîne économique. Je dirais aussi que ça rebat les cartes de la lecture, de l'écriture, de la place et du métier de bibliothécaire, etc. Donc c'est vraiment toute la chaîne du livre qui est appelée à être interrogée. Et donc de ce fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à écrire, forte de cette expérience que j'avais à la fois de bien connaître le secteur musical, donc d'avoir vu... la baisse de moitié des revenus des labels en une dizaine d'années, qui pose quand même la question de l'avenir de la filière musicale, d'avoir vu émerger quand même des nouvelles propositions, des nouveaux modèles, et aujourd'hui on a l'impression quand même que se dessine un monde nouveau, on commence à voir un petit peu plus clair. Forte aussi du fait que j'ai beaucoup travaillé sur la presse, j'ai aussi travaillé sur les aides à la presse dans le cadre d'un groupe de réflexion qui avait été installé par la ministre de la Culture. Et donc, je me disais, voilà, la presse, elle aussi, elle est obligée de revoir complètement ses modèles. C'est assez frappant de voir que même le New York Times, qui a pris le tournant du numérique, a énormément de mal à dessiner un modèle stable. Et change, fait évoluer son modèle par tâtonnements successifs sur le net pour essayer de trouver quelque chose qui soit soutenable, comme on dit. Donc je me suis dit, il y a vraiment une réflexion à mener sur le livre numérique, son avenir, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ces pages.
Est-ce que vous avez des recommandations dans ce livre ?
Des recommandations ? Non, j'ai essayé de rester très modeste parce que je commence justement par l'idée qu'on s'est souvent trompé, et j'essaye de le montrer à travers beaucoup d'exemples. Mais il y a des choses quand même qui apparaissent. Tout à l'heure, on évoquait ces nouveaux modèles. J'ai envie de dire que je pense que le papier ne disparaîtra pas.
Les gens sont très attachés à avoir un livre.
Voilà, il y a des avantages, vous savez, du papier. Vous prenez un livre, si vous n'avez plus la connexion ou si vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez plus de batterie, vous pouvez continuer de lire. C'est quand même une technologie formidable, le livre, si je puis dire. Donc, je ne pense pas que le livre disparaisse, papier. En revanche, ce qui peut se passer, c'est une inversion. C'est-à-dire que les éditeurs publient d'abord numérique. Et d'ailleurs, il y a des expérimentations qui sont faites là-dessus. Et ensuite...
Si ça marche,
publie papier. Et bon, pour certains livres, ils feront les deux tout de suite. hein, l'écran best-seller, etc. Et même pour le libraire, ça peut être très intéressant. Certains libraires disparaîtront, mais je crois qu'ils ont une carte à jouer. Regardez, vous êtes libraire et vous vous dites, voilà, je vais constituer un fonds parce que je connais un peu ma clientèle, je sais qu'elle est intéressée par certains types de livres, donc je vais aller sur le fonds de catalogue et je vais commander 100 exemplaires de tel livre qui avait un peu disparu des rayonnages parce que celui-là, je le trouve intéressant, etc. Or, les technologies d'aujourd'hui en matière d'impression à la demande, et ça ne veut pas dire simplement impression à l'exemplaire, sont très, très, très raffinées. On peut faire de très belles choses. Donc voilà déjà quelque chose qui permettrait d'inverser la chaîne de valeur, de continuer d'avoir une vie numérique, si je puis dire, en articulation avec le papier, de manière un peu vertueuse. C'est-à-dire l'un ne fait pas disparaître l'autre, mais... Par exemple, aussi pour les livres qu'on appelle avec des marchés de niche, c'est-à-dire des petits marchés, on sait que ces marchés peuvent trouver avec Internet quelque chose de formidable. C'est-à-dire que vous allez rassembler virtuellement des lecteurs qui étaient complètement dispersés physiquement. Donc, par exemple, vous écrivez un livre, je ne sais pas, sur telle tribu en Inde au XVIIe siècle, il y a 2000 personnes dans le monde intéressées par cela. Mais il n'y a pas un libraire qui, à Paris, aurait intérêt à prendre votre livre. Donc là, c'est vraiment le numérique qui apporte quelque chose de neuf. Parce que vous allez justement pouvoir vendre, par exemple, pas nécessairement sur Amazon, sur des plateformes sur lesquelles se rencontrent les gens qui s'intéressent à cette question-là.
J'imagine qu'elles sont encore à créer.
Beaucoup de choses sont à créer, beaucoup de choses existent, beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Vous avez, par exemple, vous avez beaucoup de clubs de lecture. Alors, Amazon en a racheté un, qui était le plus gros club de lecture américain, Goodreads. Mais vous en avez d'autres. Et vous en aurez, à mon avis, de plus en plus. Parce que ces clubs de lecture, c'est quoi? C'est aussi des lieux où on recommande des livres, on discute de ces livres, etc. C'est-à-dire, c'est la réinvention du salon de lecture du XVIIIe siècle. Et il y a comme ça des choses tout à fait extraordinaires qui se passent avec le numérique.
D'accord. Merci. Ben, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre à l'heure du numérique, Papier et écran vers un nouveau vagabondage, de Françoise Benamou, aux éditions Seuil.
Merci.
Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Je vous retrouverai dans un prochain épisode pour interviewer Jean-Hervé Lorenzi. Si jamais vous avez des idées de questions à lui poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, adrien.fabre@ens.fr. Enfin, je clôturerai ce premier épisode du microéconomique par ce qui va devenir une tradition en fin d'émission. Le rappel d'un fait économique, un conseil de référence économique et enfin une citation. Alors, le fait économique que je vais évoquer aujourd'hui, c'est celui du PIB moyen par habitant mondial. Il est... en parité de pouvoir d'achat, l'équivalent de 910 euros par mois pour un Français, soit environ le seuil de pauvreté. Donc c'est à peu près un tiers du revenu moyen d'un Français. La référence que je conseillerais, c'est le mensuel Alternative économique qui décrypte les enjeux de l'économie contemporaine avec un regard de gauche. Enfin, la citation est tirée de L'utopie de Thomas More, qui date d'il y a 500 ans, voici ce qu'elle dit. Tant que le droit de propriété sera le fondement de l'édifice social, la classe la plus nombreuse et la plus estimable n'aura en partage que disettes, tourments et désespoirs. Je sais qu'il y a des remèdes qui peuvent soulager le mal, mais ces remèdes sont impuissants pour le guérir. Par exemple, décréter un maximum de possessions individuelles en terre et en argent. Se prémunir par des lois fortes contre le despotisme et l'anarchie, flétrir et châtier l'ambition et l'intrigue, ne pas vendre les magistratures, supprimer le faste et la représentation dans les emplois élevés. Méditez là-dessus et à tantôt !